Courtillon, le bon tailleur. Pour un 23 octobre, la nuit avait été insupportablement froide. Il eût été facile d'en juger à voir le petit bout d'homme qui débouchait sur Martigny entre la base abrupte du plateau de chemin et les escarpements qui dominent le cône élégant du vignoble du Rocard. Sous la vaste nappe de crêpes qui s'étendait devant lui, allongé au loin entre les ombres colossales des deux rives, le fond plat de la vallée du Rhône se laissait soupçonner plus qu'apercevoir. C'est à peine si, de là-bas, au second plan, la ville arrivait à percer le voile d'ombre de deux ou trois feux clignotants, pareils aux étoiles, que les approches du matin semblaient éloignées dans les profondeurs célestes. Et comme cet élargissement de l'espace remuait l'air plus glacial, le tailleur éprouvait un besoin irrésistible d'exprimer une plainte ou d'entendre une voix humaine. C'est pourquoi, la drance franchie au pont de la Croix, le bon garçon, arrêté au milieu de chaussée gelée et sonore, se déclarait à lui-même: « Quel froid sauvage par cette plaine! Ah oui, Eucharist, tu peux bien dire une fois de plus, vive mes dires !» Déjà, il paraissait regretter son village, quitté 4 heures auparavant, un vieil entassement de maisons charpentées, blotti là-bas dans une niche élevée, que d'âpres rochers gris piquetés de sapins abrite avec sollicitude contre les morsures de l'Aquilon. À la vérité, il aurait été facile au petit tailleur de se rendre à Fully en moins de la moitié du temps qu'exigeait cette route. Malheureusement, quoique accoutumé à se lever matin pour aller en journée, il était de tout temps resté ennuyeux, comme on dit à Médière. Les contes légendaires d'autrefois avait maintenu ses concepts dans un état d'enfance qui semblait attester son petit corps de 39 ans. Il redoutait principalement ce col du Laine qui mène de sa commune dans la vallée du Rhône et dont les vieilles nares faisaient le théâtre de fantastiques scènes nocturnes. Ce passage eucharistique ne savait se le représenter autrement que scandé de vieux troncs pourris, rendant une odeur blafarde et servant de piédestal à un bouc vert qui fume la pipe et d'une voix caverneuse, pose à tout instant la question « À qui est la nuit ?» Sans doute on citait maintes répliques efficaces pour lui river le clos à ce fantôme. Mais, désireux avant tout de s'épargner l'émotion de semblables rencontres, le tailleur avait préféré se jeter dès 2h30 sur le grand chemin à la garde des bonnes âmes du paradis, en prenant soin de ne jamais regarder ailleurs que devant ses pas. À présent, ragaillardi par le chant enroué des coqs, par l'aspect de la route plus blanche, élargie et aplanie, revenu à son état normal, le petit homme s'appliquait à remettre bout à bout ses pensées, toutes brouillées jusque-là dans la terreur des apparitions. Voilà, il lui importait extrêmement d'arriver à la Colombière avant le départ de ses sœurs. Sinon, elles allaient encore se voir forcées de remettre les clés du mazeau à ce bernois hérétique de Plaintier qu'elle tenait à importuner le moins possible. Non pas qu'il fût mauvais voisin, il était toujours prêt, au contraire, à rendre service. Mais c'était déjà assez pour elle que d'être réduite à passer le temps à la vendange, ainsi que la moitié du carême près du mazeau d'un homme dont l'impiété éclatait dans le moindre des propos, comme si, jaillit des moelles, la source du poison eût pénétré jusqu'au dernier des poils blancs de sa barbe. Mais ce que Cariste évitait avec scrupule d'exprimer ou de se rappeler, c'est qu'il avait une vraie figure de père éternel, ce gros peintien. Cette comparaison obsédante est peut-être même le sujet principal du trouble où cette rencontre jetait le bout d'homme. Trouver de la ressemblance entre cet excommunié et celui qui peut tout. Quel blasphème! Toutefois, si nous sommes maîtres de nos actions, nous ne sommes pas des images qui forment sous nos sens. Et on savait quelque chose, le petit tailleur, des apparitions importunes. Aussi avait-il beau étourner ses regards, sans cesse il revoyait ce nez énergique, ce regard d'une débonnaire intelligence, cette barbe éployée sur la poitrine comme un débordement du Rhône sur la plaine. Même plus, il s'efforçait de l'oublier, cette image, et plus il lui semblait avoir la perception nette de cette tête de philosophe villageois élargie par le flot des pensées qui s'y emmagasinaient à la journée finie, quoiqu'il n'eût plus guère de chance d'en sortir, tant sont rares au village les occasions de philosopher. À l'entrée du bourg, devant la chapelle de l'archange Saint-Michel, Eucariste avait tiré ses mitrons de gros tricot pour joindre les mains comme il faut et dire correctement son pater. Puis, de la trottinante vitesse d'un rat d'appartement, ses petits pas furtifs l'emportaient déjà vers la ville, tandis qu'au travers du feuillage appauvri des noyers bordant l'avenue, son regard trouvait à s'égayer à la brusque apparition des monts neigeux du Haut-Valais, dont les crêtes éclataient dans le lointain, une à une, en des splendeurs de réveil. À les fixer, il semblait que la course d'or qui, la coulée d'or qui débordait sur ses prismes d'argent, en aviva la clarté avant de venir se dérouler sur la ville endormie. Puis, malgré le froid de plus en plus vif, à mesure qu'on s'engage dans les alignements de peupliers qui filent droit vers le fleuve, le voyageur fut assailli de souvenirs et de nouveau par ses réflexions. Pour Marthe et Frosine en particulier, quelle incomblance que le voisinage de ce Barnet! N'avait-il pas pénétré les secrets les plus intimes de leurs âmes, jusqu'à découvrir qu'en vue de rendre leur vie plus méritoire, elles faisaient au bon Dieu le sacrifice de leur gourmandise, en privant leurs lèvres altérées de dévotion du plus léger grain de raisin? Mais malgré tout, le petit tailleur se sentait distrait par une bise que le jour levant semblait rendre de plus en plus cinglante, et aussi par l'aspect de l'étendue unie des champagnes évelayées en plein jour, dans le fantastique vision d'un paysage en filigrane d'argent et de cristaux. Seule une bande sombre barrait le tout, flottant ainsi qu'une écharpe grise sur la longueur du fleuve. En entrant dans ses plis, on se serait cru frôlé par un reptile gigantesque aux écailles d'acier, dont la morsure refoulerait le sang et crisperait les chairs. Mais voici le pont de Branson, la montée à côté au roc, le village et bientôt les maseaux de Lachemont-Lombrière. Le petit homme est sauvé. Seulement, voilà bien la guigne à présent. Le village semble désert. Pressé par les derniers labeurs d'automne, sa population temporaire a regagné les hautes bourgades de l'Entremont. Et déjà, les vendanges ne sont plus qu'un souvenir. Depuis, la plupart ont eu le temps de remonter tondre les brebis, de redescendre presser la vendange ou gauler les châtaignes, puis de rentrer pour l'hiver dans leur sauvage vallée. Et pour comble, voilà ses sœurs déjà parties. Les vignes jonchées de feuilles, qui semblent un tapis de rouille, ajoutent à ce sentiment de tristesse, avec leurs échalas empilés çà et là, sur le berceau que sur le front, voient quatre d'entre eux fichés dans la terre en croix de Saint-André. Pas moins qu'elles ont dû donner à garder leurs clés à cet impie, le seul bagnard qui s'attarde par folie, pensait le voyageur tout navré. Oh, bouvre le métier! Ce fut une voix invisible qui le mit au clair en lui criant d'un ton approbatif et décidé. Bon, bon, encore une fois en bas, donc Christ. Oui, encore une fois, pour trogner ce peu de vin qu'on a. Peut-être que t'arrives trop tard, mon pauvre. Le bordier vient de partir pour Vevey, rapport à cette farce qui lui arrive. Quoi, quoi, de la part de mon pardieu? Eh ben, son treuil a brûlé l'autre nuit avec la baraque. Les timbres, les brandes, tout le Bataclan. Oh, j'ai bien toujours dit, moi, qu'il faut marcher avec son temps, mais avec mon pressoir, ça aurait jamais pu arriver. Mais avec ses vis de bois, portées pour les innovations, le gros peintier, qui venait d'apparaître sur le tronçon de la galerie, avait grand soin, toutes les fois qu'il parlait de sa moderne installation, de dire en lissant les six pressoirs pressés, tandis que le vieux édifice, édicule accepté à la même destination, obtenait tout au plus de lui les honneurs de l'ancien vocable paysan, treuil, trollier. Et à présent, que vas-tu faire, reprit-il. Et puis, tu descends bien en retard. Tu laisses cuver trop longtemps, mon bon. Et ton raisin, pourri, séché ou moisi dans le panier, c'est bien la peine que tes sœurs s'en privent comme d'un poison. Clarisse exposa les causes de ce retard. La crainte de perdre la pratique du châtelain Garot, une bonne maison, six garçons équipés pour l'hiver. Il en était à la sixième journée. Il avait obtenu de venir troller que sous la promesse formelle de reprendre son aiguille le lendemain. Et en vous donnant les clés, elles n'ont rien dit ? Demanda-t-il. Dieu quoi ? Elles ont bien trop peur de me parler, ces cambernes. Mais tu dois avoir bien faim et bien soif, mon pauvre. Allez, monte si tu veux. Monte, Nigaud. Que veux-tu aller faire à cette heure dans ton mas au froid ? Allez, un verre de vin, un peu de bouillon. Du bouillon ? Ce bouillon de l'incrédule faisait trembler le petit cariste, auquel il semblait précisément, parce que l'autre le lui offrait, qu'il doit être tout exprès vendredi, vigile ou quatre temps. Il faut beaucoup de réflexion pour se rassurer, plus encore pour le décider à franchir le seuil de ce pied-à-terre où tant de paroles redoutables avaient dû se dire. « Ah si ? » demanda-t-il. Elles sont parties de bonne heure ? Pense donc, pour aller à Lombard, plus loin que Sion, l'Ermitage où on va manger du miel. Oh, le dîner passé, adieu les bonnes choses. L'ermite les met sous clé et va qu'à ses petites affaires. Alors elles vous ont dit, oh, c'est-à-dire que c'est moi qui ai demandé, où allez-vous ? Elles ont baissé les yeux en répondant, priez pour ceux qui en ont besoin. Mais la tisserande qui les suivait m'a soufflé pour manger du miel. Oh, la tisserande, c'est possible, mais les nôtres. Oh, une croûte de miel d'ermite, ça ne s'empoisonne pas, pas plus qu'une grappe de raisin, murmura le pintier, ayant tiré sa casquette de drap marron à oreillettes baissées, Le petit tailleur s'était pourtant assis devant le pot de terre où les tranchettes de pain de seigle pompaient le clair sous le fromage gras. Après avoir pris le temps voulu pour bien se persuader que rien ne pouvait s'opposer à ce qu'il acceptât cette soupe bienfaisante, il était signé, puis mis à souffler dans la cuillère, adossé à la cloison, juste de face. Le peintier se prit alors à considérer son invité en détail. La douceur même que ce tout petit homme, avec cette tête brune, couverte de poils drus, dont quelques-uns venaient se risquer en sentinelle jusqu'au sommet de ses boutons dits grains de beauté, qui se dispersaient sur sa face comme des taupinières sur une pelouse. Les contours du petit corps se dissimulaient dans une jaquette aux coutures droites, très haut boutonnée, en drap de capucin, car il paraît que nous avons toujours quelques penchants à ressembler à ceux que nous admirons dans la vie. Platon, que le bon tailleur n'avait certainement pas connu, assurait même que l'on devient semblable à l'objet de sa contemplation. Mais l'accueil qui lui était fait par ce païen plongeait le petit homme dans un étonnement qui le rendait de plus en plus perplexe. De même que la plupart des croyants simplistes, jamais il n'avait admis de distinction possible entre l'irréligion et la malfaisance. Ne pas fréquenter l'église, c'était se montrer capable de tout. Cette fois, pourtant réchauffé et bien restauré par le potage appétissant, avalé avec bonheur, et que la violence du froid et de la faim l'avait seul pu décider à accepter, il commença à lui paraître peu charitable de garder des doutes à l'égard de la droiture d'intention de son hôte. Et en examinant bien, Caris sentait plutôt venir de lui une sollicitude protectrice dont il était ému. Puis cette découverte en amenait tout à coup une autre, révélant même à l'invité la présence, au fond de sa petite âme, d'une semence de zèle apostolique insoupçonnée. L'histoire ecclésiastique ne sait-elle pas qu'un tout petit chrétien d'autrefois était parvenu, à force d'exemple et de bonne volonté, à tirer son père des ténèbres du paganisme? Exemple, volonté, Cariste aussi se serait senti de force à manœuvrer ses deux armes. Mais il faudrait tenir compte de l'obstacle nouveau et prévoir que, dès le premier mot de religion ou de devoir, l'impie riposterait par une gouaille à la déconcertée nette le plus persévérant des prédicateurs. Néanmoins, il résolut d'entrer en campagne. Quel dommage, fit-il, un homme comme vous que... Écoute, Cariste, si tu veux profiter du pressoir et remonter pour aller en journée demain, je crois qu'il ne faut pas perdre ton temps à faire le missionnaire. Et comme sur cette riposte le peintier s'était levé, ils coururent à la cave du mazot du petit homme, où les raisins que ses sœurs avaient prélevés à son intention s'étaient encore tout vermeils sur un lit de sarment. Le gros barbu eut prestement débordé la rue, la tinée et rempli la première branche. Mais dès que le bout d'homme vint présenter les épaules pour y recevoir le fardeau, il fut rabroué. « Mais veux-tu pas? Tu me sembles plutôt fait pour transporter le vin en burette autour d'un autel. Pour la brande, il faudra bien me laisser faire, mon petit. Elle t'était comme à moi un bonnet d'évêque. Oh, ça vous dirait déjà pas mal, » répondit avec à propos Cariste, de plus en plus revenu de ses préventions. Ainsi, durant de nombreux voyages qui se firent entre la cave et le pressoir, il ne resta au petit homme, réduit à l'inaction, qu'emboîtait le pas au gros bâtir en le mesurant au balancement de ses hanches. Mais il restait tout méditatif, le pauvre petit être, car il n'avait rien entrepris de moins que d'assurer à tout prix le salut de cet homme qui se donnait l'air mauvais et qui était de tant bon service. Mais le moyen, ah, le moyen! Vers midi, les 9 septiers de vin du petit tailleur étaient encavés, à l'exception de la contenance d'un barillet que le gros barbu avait chargé sur le derrière de son char, à côté du panier qui contenait les raisins d'Eucharist. Car, rentrant lui aussi dans la vallée ce soir-là, le barbu venait de dire à son client: « Oh, ça ne me coûte rien de prendre tout ceci sur le char. Avec toi, par-dessus le marché, nous débarquerons le barillet chez moi, au Châble, et dimanche après la messe, tu te flanques sur un mulet. Ça te va-t-il ? Mais vos peines, quelles peines ! Ben, je vous ai laissé tout faire, j'ai déjeuné à vos dépens. Tais-toi, Nigo, allons dîner, et j'attelle. Alors merci, le bon Dieu vous le rende. Mais pour le treuil, un pot barsetier, c'est la coutume. Pas ça, mon petit, pas ça. Tes couturiers, est-il pas vrai? Eh bien, j'ai un rouleau de drap chez le foulonnier. Après les boucheries, j'aurais besoin d'un solide habillement pour les dimanches. Veux-tu venir 2 ou 3 journées? Tu choisiras, car je t'avertis que je fais gras le vendredi. Ainsi, tu pourras garer ton vin pour tes sœurs, qui ont déjà séché l'envie, à côté du raisin, plutôt que d'en manger ces tarmazazes. Toi, Eucharistes en journée, chez le gros pintier, mais que de canon, mon petit, que de cancan partout, devait se dire ce soir-là le bon tailleur, en gravissant de son pas le plus assuré le sentier qui monte vers la haute niche où se tiennent blotties les petites maisons de Médière. La proposition du gros barbu qui, la veille à peine, lui fait reculer d'horreur, mettait à présent le comble à ses enchantements, et l'idée des cancans qu'il soulèverait par le simple fait d'aller en journée chez l'incrédule semblait plutôt stimuler son jeune zèle d'apôtre. Aurait-il tenu le fameux moyen qu'il n'eût pas été le plus radieux? Au reste, tout se passa comme il avait été convenu. Et c'est dans un vêtement de beau drap que le Père éternel, tout cossu, apparut pour servir les boissons chaudes à ce nocturne clientèle de la Noël. Et depuis 2 ans et demi, le corps du bon tailleur, qui s'était déroché en allant aux Genièvres pour la fête des rameaux, reposait au cimetière de la grande paroisse, et son fameux moyen d'assurer le salut du pointier semblait enseveli plus profond que lui, lorsqu'à la dernière foire, ensuite d'une dispute, le gros barbu eut son paletot déchiré des mains d'un forcené qu'il repoussait jusqu'à la rue. La constatation du dommage fait sur le champ devant la foule des consommateurs amena l'étrange découverte de 2 petites médailles de la Vierge solidement fixées aux entournures, contre la toile et le drap et rendues toutes brillantes par la continuité du polissage, et au mépris des explications du pintier, qui exposa mot par mot l'histoire du tailleur, auquel il imputait cette pieuse malice, les plus sceptiques de ce jour-là furent les croyants. L'incrédulité du Barnet en fut même d'autant plus sujette à caution qu'à quelques dimanches de là, le curé Mercier, un prêtre au vu large, un tantinet optimiste, en fit le thème d'un magnifique sermon sur l'incrédulité. il y dressait un solennel réquisitoire contre le matérialisme pour arriver à conclure par cette démonstration appuyée, selon lui, sur 100 exemples, que la véritable impiété n'existe pas.